commence donc avec le 111e prix Nobel de médecine qui est attribué donc à Harvey Alter, Michael Houghton et Charles M. Rice pour leurs travaux sur l'hépatite C.
Oui, encore une fois, ce sont des prix Nobel très masculins. Avec ce trio anglo-saxon, on retrace l'histoire de l'identification de l'hépatite C. Ce virus qui se transmet par le sang est l'une des premières causes du cancer du foie et provoque environ 400 000 décès chaque année. Mais depuis 2011, de nouveaux médicaments permettent la guérison dans plus de 95% des cas. Alors, cette maladie est apparue dans les années 70. À cette époque, l'Américain Harvey Alter, le premier lauréat, examine des tests sanguins et découvre ce nouvel agent pathogène, une forme d'hépatite virale chronique qu'il appelle hépatite non A et non B. En 1987, l'anglais Michael Houghton utilise une nouvelle approche de clonage moléculaire et parvient à identifier le génome complet du virus. Et enfin, en 2004, l'américain Charles Rice perce les secrets de sa réplication virale. Jean Dubuisson est directeur de recherche CNRS au Centre d'infection et d'immunité à l'Institut Pasteur de Lille. Il a fait son post-doctorat avec Charles Rice.
Donc Rice est arrivé... C'est le troisième, si vous voulez, dans la liste des trois lauréats. Lui, il était un spécialiste à l'époque des virus de la même famille, les flavivirus. Et donc, il savait comment ces virus étaient organisés. Et donc, il a très rapidement développé tous les outils pour étudier ce virus. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que malgré tous les outils moléculaires développés, ce virus restait toujours résistant à la culture cellulaire. Donc il a développé vraiment des outils spécifiques qu'on appelle un réplicon, c'est un mini-génome viral qui est capable de se répliquer de façon autonome, donc qui permettait pour la première fois d'étudier le mécanisme de réplication du virus en culture cellulaire, même si ça ne conduisait pas à l'apparition de nouveaux virions capables de réinfecter des cellules. Et de fil en aiguille, il a reconstitué progressivement un virus complet, un génome complet, et au bout du compte, 15 ans après l'identification du premier morceau de génome du virus de l'hépatite C par l'équipe de Michael Houghton, en 2004, un système de culture cellulaire a pu être produit à partir de tout le travail sur le génome du virus de l'hépatite C grâce aux travaux de l'équipe de Rice et aussi grâce aux travaux d'autres équipes, bien sûr. En fait, en 25 ans... on a pu développer des outils, des molécules qui traitent complètement cette infection virale. C'était vraiment la success story en termes de recherche dans le domaine des virus. Et en une génération, on est passé d'un virus complètement inconnu à un traitement qui est maintenant utilisé sur la Terre entière et qui soigne des millions de patients à travers le monde.
Voilà pour le prix Nobel de médecine 2020. On continue à suivre cette semaine de Nobel avec la physique demain, la chimie mercredi. Et puis on laissera le camarade Mathieu Garrigou-Lagrange s'occuper de la littérature jeudi. Et ce sera le prix Nobel de la paix vendredi. Et on passe au bref. David Larousserie, notre camarade du journal Le Monde, alerte sur la baisse du budget européen de la recherche.
Et en juillet dernier, le Conseil européen a décidé d'un plan pour réduire de 5 milliards d'euros le budget de la science et de l'innovation, baptisé Horizon Europe, pour 2021-2027. La Global Young Academy, un collectif d'une vingtaine d'académies européennes, a signé une lettre ouverte aux eurodéputés et aux gouvernements nationaux. Cette lettre dénonce ces coupes budgétaires et en particulier celles contre les ERC et le dispositif Marie Curie, un deux systèmes de bourse. De nombreuses organisations scientifiques européennes s'inquiètent de l'avenir des jeunes chercheurs. Des négociations sont toujours en cours.
Selon les premiers résultats d'un essai clinique français, les tests salivaires pour détecter le SARS-CoV-2 fonctionneraient.
Ce sont des résultats préliminaires assez encourageants. Selon le communiqué du CNRS paru aujourd'hui, le nouveau test salivaire, EasyCov, présente une efficacité presque similaire à celle des tests PCR nasopharyngés. 220 patients infectés ou non symptomatiques et asymptomatiques ont été testés avec les deux méthodes. EasyCov permet d'obtenir des résultats plus rapidement, en seulement 40 minutes, et il détecte 87,5% des patients positifs, avec très peu de faux positifs. 720 personnes supplémentaires doivent encore être intégrées à cette étude clinique afin d'obtenir des conclusions solides.
Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, en 1978, la NASA avait peut-être déjà trouvé des biosignatures dans l'atmosphère de Vénus.
Et le 14 septembre dernier, une équipe britannique a déclaré avoir détecté dans l'atmosphère de Vénus des traces de phosphine, un gaz qui peut éventuellement être un signe de vie. Mais des doutes persistent sur la véracité de ce signal. Des chercheurs américains viennent de réexaminer de vieilles données de la NASA, celles du spectromètre de masse de la sonde Pioneer Vénus Multiprobe, en 1978, qui a mesuré les masses de différents composés dans l'atmosphère de la planète. Alors, selon cette prépublication, ces données pourraient constituer un deuxième indice de la présence de phosphine. Par ailleurs, de nombreuses missions sur Vénus sont déjà prévues. Il y a la sonde Bepi Colombo, le programme Envision de l'ESA d'ici 2032, et la NASA qui vient d'envisager deux nouvelles missions, Da Vinci Plus et Veritas.
Et voilà, on reparlera plus longuement des biosignatures. Ce sera le thème de notre émission de demain. Merci Natacha. Thank you.